VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du vendredi 29 décembre 2017. En direct de Washington, Idrissa Seloudia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres.
Grande victoire de George Weah au second tour de la présidentielle au Libéria.
Déclaration du pasteur Ntoumi sur l'accord de cessez-le-feu au Pôle signé entre le gouvernement et ses rebelles au Congo-Brazzaville.
Au Cameroun, acquittement d'un ancien maire accusé de collusion avec Boko Haram après 2 ans de détention.
En Égypte, 6 militaires, dont un officier, ont été tués dans l'explosion de leur véhicule dans le Sinaï.
Le président Donald Trump a vivement dénoncé hier la position de Pékin dans le dossier nucléaire nord-coréen.
Un incendie dans un immeuble d'appartement dans le quartier new-yorkais du Bronx a fait hier au moins 12 morts, dont un enfant de 1 an.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Libéria, large victoire du sénateur George Weah au second tour de la présidentielle de mardi. La légende africaine du football a battu le vice-président sortant, Joseph Boakai. Des détails avec Eric Manirakidza.
Les résultats provisoires publiés portaient sur la compilation de 98,1% des suffrages exprimés. L'ex-star du football, George Weah, est crédité de 61,5% contre 38,5% pour son adversaire, le vice-président Joseph Boakai. La commission électorale nationale rendra aujourd'hui les résultats définitifs qui seront transmis à la Cour suprême pour validation. La présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf a déjà mis en place une équipe de transition composée de plusieurs ministres qui est chargée d'organiser un transfert ordonné du pouvoir à son successeur le 22 janvier. Le Libéria n'a pas connu d'alternance démocratique depuis 1944. Près de 3 décennies après le début d'une guerre civile, Moronvia s'apprête à vivre une transition du pouvoir en douceur entre un président élu et Ellen Johnson Sirleaf, la première femme élue présidente en Afrique. Toutes les missions d'observation et le secrétaire général Antonio Guterres ont salué la tenue pacifique et transparente du scrutin. Organisé au lendemain de Noël, le second tour avait été reporté de 7 semaines. Plusieurs candidats avaient contesté les résultats du premier tour du 10 octobre.
Au Congo-Brazzaville, le pasteur Ntoumi s'est prononcé sur l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités dans le Pool, signé le 23 décembre dernier entre ses rebelles et le gouvernement. Il a donné les précisions suivantes.
Nous prenons acte de la volonté de 2 parties de désamorcer la crise et de rendre permissif le processus de paix dans le département du Pool, en jugeant nécessaire d'arrêter les hostilités. Mais compte tenu du fait que le texte avant sa signature ne nous a pas été soumis et ne fait pas ressortir nos préoccupations majeures, nous exigeons la mise en place d'une commission mixte et paritaire de travail qui sera composée des mandataires du gouvernement et des émissaires mandatés par mes soins qui vont se joindre à ceux qui sont sortis des prisons. Cette commission aura vocation de revoir et de corriger le corps de tout le texte, en prenant en compte les points suivants. Le règlement politique de la situation sous l'observation internationale, les levées des mandats d'arrêt et de la suspension du CNR, la réinsertion politique et la réinsertion socio-économique, le retrait de troupes dans les zones où il n'y avait pas leur présence avant la guerre, la libération de tous les détenus politiques, l'assistance multiforme des populations sinistrées du département du Pôle. L'organisation du dialogue national inclusif sous l'observation internationale.
Le pasteur Ntoumi, chef des rebelles du Pool au Congo-Brazzaville.
Au Cameroun, un ancien maire accusé de collusion avec Boko Haram a été acquitté après 2 ans de détention. Les détails avec Eddie Isango.
Le tribunal militaire de Yaoundé a acquitté hier Moussa Ramat, ex-maire des Fotokol dans l'extrême nord du Cameroun, interpellé en septembre 2014 suite à des soupçons de complicité avec le groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Il était accusé d'avoir fourni des armes à Boko Haram et aidé à la commercialisation du produit d'épillage à des combattants du groupe djihadiste qui attaquent fréquemment des localités camerounaises. Son avocat estime que les procès étaient injustes car son client a servi son pays et aidé les interventions de plus hautes autorités militaires. Plusieurs sources indiquent que M. Ramat était intervenu avant d'être arrêté dans plusieurs négociations ayant permis la libération d'otages de Boko Haram. Le 22 décembre, le journaliste Ahmed Abba, soupçonné également d'avoir collaboré avec Boko Haram et de ne pas avoir partagé les informations qu'il détenait, a été libéré après 29 mois de détention. Depuis 2014, Boko Haram a tué 2000 civils et militaires et enlevé un millier de personnes dans l'extrême nord du Cameroun, selon le centre d'analyse International Crisis Group. Au total, Boko Haram, actif dans les pays frontaliers du lac Tchad, Nigeria, Cameroun, Niger et Tchad, a provoqué la mort d'au moins 20 000 personnes depuis son apparition il y a 8 ans.
Nouvelle perte dans les rangs de l'armée égyptienne dans le Sinaï. Six militaires, dont un officier, ont été tués dans l'explosion de leur véhicule. Abdourahmane Dia.
Selon le porte-parole de l'armée, l'explosion visant les forces de sécurité a eu lieu lors d'une opération menée contre des terroristes dans la région du Nord Sinaï. Toutefois, Tamer el-Refai n'a pas précisé la date de l'opération. Dans une opération militaire distincte, trois militants transportant à bord de véhicules des armes, des munitions et des engins explosifs ont été tués, a ajouté le porte-parole. Depuis la destitution en 2013 par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi, les forces de sécurité affrontent dans cette région de l'Est égyptien des groupes extrémistes, dont la branche égyptienne du groupe État islamique. Des centaines de policiers et de soldats sont morts dans ces attaques. L'État islamique a revendiqué de nombreuses attaques contre les forces égyptiennes, mais également contre les civils. Fin novembre, une attaque contre une mosquée dans le Nord Sinaï a fait plus de 300 morts, l'attentat le plus meurtrier de l'histoire récente de l'Égypte.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Donald Trump a vivement dénoncé hier la position de Pékin qui empêche, selon lui, toute solution amicale dans le dossier nucléaire nord-coréen. Un changement de ton pour le président américain qui louait dernièrement les efforts chinois pour faire pression sur la Corée du Nord. Arzuma Compaoré.
Pris la main dans le sac, a lancé le président américain sur Twitter, se disant très déçu de voir la Chine permettre au pétrole d'entrer en Corée du Nord. Il n'était pas clair dans les médias si le président américain faisait référence à des preuves en possession des États-Unis d'un éventuel non-respect par la Chine des sanctions internationales. Des sanctions contre la Corée du Nord qui ont par ailleurs été durcies par le Conseil de sécurité de l'ONU le 22 décembre par un vote unanime sur une résolution américaine, juste à la suite des négociations entre les États-Unis et la Chine. Selon Washington, seule une vraie pression de la part des Chinois et un embargo pétrolier strictement respecté peuvent faire plier Kim Jong-un et le pousser à négocier l'abandon de son programme nucléaire. Le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, a dans une tribune publiée par le New York Times estimé que même si Pékin a appliqué certaines interdictions d'importation et sanctions, il peut et devrait continuer à faire plus.
Deux ressortissants roumains ont été arrêtés et inculpés pour avoir piraté les systèmes informatiques contrôlant les caméras de surveillance du département de la police de Washington. C'était début janvier 2017, en plein préparatif de l'investiture du président Donald Trump. Ils avaient neutralisé 123 des 187 caméras en question en utilisant un logiciel de rançon pour tenter d'extorquer de l'argent en échange du déverrouillage du système. Le Secret Service, chargé de la protection du président et de son entourage, et d'autres agences se sont rapidement assurés que le système de caméras de surveillance était sécurisé et opérationnel.
En Syrie, les évacuations de civils gravement malades de la Ghouta orientale doivent se poursuivre aujourd'hui. Cette région rebelle proche de Damas est assiégée par le régime syrien depuis 2013. Au total, 16 personnes ont ainsi pu sortir de la Ghouta orientale en proie à une crise humanitaire aiguë. Ce nombre est encore très en deçà des 500 que l'ONU veut évacuer. Avec les retards et blocages sur ce dossier, 16 patients sont déjà morts depuis novembre.
Ici, aux États-Unis, un incendie dans un immeuble d'appartement dans le quartier de New York, du Bronx à New York, a fait hier au moins 12 morts, dont un enfant de 1 an, ainsi que 4 blessés graves. C'est ce qu'a déclaré le maire de la ville, Bill de Blasio, qui a parlé de bilan provisoire. Les causes de l'incendie qui a été maîtrisé ne sont pas encore connues. Thierno Diallo, un vigile de 59 ans, originaire de Conakry en Guinée et qui habite au rez-de-chaussée de l'immeuble, a dit que ses habitants viennent de partout dans le monde. Cette tragédie est sans doute historique de par son ampleur, a souligné le chef des pompiers qui a ajouté « Nous sommes choqués par cette perte ».
En Inde, au moins 14 personnes ont péri dans la nuit de jeudi à vendredi dans un énorme incendie qui a ravagé un restaurant populaire de Bombay. 11 des victimes sont des jeunes femmes qui participaient à une fête d'anniversaire dans cet établissement sur le toit d'un bâtiment du centre de la ville où le feu a débuté peu après minuit. Les médecins ont précisé que beaucoup avaient péri asphyxiés en tentant d'échapper aux flammes. L'incendie a été éteint vendredi matin. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Eric Manira Kiza.
Le tourisme en Tunisie a retrouvé des couleurs en 2017 avec une augmentation de 23% par rapport à 2016. Au total, 6,731 millions de touristes ont visité le pays du jasmin qui a enregistré plus d'un milliard de dollars. Le tourisme représente environ 8% du produit intérieur brut, fournit des milliers d'emplois et constitue une des sources de devises les plus importantes. Le Nigeria veut restaurer 4 millions d'hectares de terres forestières dégradées. Abuja rejoint la trentaine de pays africains qui se sont engagés à restaurer plus de 84 millions d'hectares de terres dégradées. Il s'associe à l'initiative pour la restauration des paysages forestiers en Afrique et au défi de Bonn. Ce défi vise à restaurer 150 millions d'hectares d'ici 2020. Et 350 millions d'hectares d'ici 2030. Enfin, aux États-Unis, le PDG d'Apple, Tim Cook, a gagné plus de 100 millions de dollars cette année. Le conseil d'administration l'a obligé à utiliser un jet privé pour tous ses déplacements professionnels et personnels pour des raisons de sécurité. L'ensemble des dépenses pour assurer la protection de M. Cook s'élève à plus de 224 000 dollars. Apple est aujourd'hui la première capitalisation boursière mondiale avec près de 900 milliards de dollars et son chiffre d'affaires annuel est de l'ordre de 230 milliards de dollars.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Arsène Wenger égale le record de matchs de Sir Alex Ferguson.
810 matchs sur un banc de Premier League, il faut le faire Idrissa, toutes compétitions confondues, le technicien français, sous contrat jusqu'en juin 2019, a dirigé au total 1193 matchs depuis son arrivée dans le nord de Londres en octobre 1996. Sous sa direction, les Gunners ont remporté 3 titres de champion, 4 coupes d'Angleterre, une magnifique saison 2003-2004 où règnent les Invincibles, aucune défaite en Premier League et une finale à mai de Ligue des champion perdu en 2006 contre le Barça.
De nouveaux actes de racisme en Belgique au cours d'un match.
La victime se nomme Uche Agbo, joueur nigérian du Standard de Liège, qui a essuyé des cris de singe après avoir écopé d'un carton rouge. Uche a contesté l'arbitrage pendant quelques instants avant de sortir du terrain. Une sortie douloureuse puisqu'elle a été accompagnée de jets de gobelets de bière, insultes, doigts d'honneur et cris de singe de la part des supporters du camp adverse devant lesquels il devait passer avant de rejoindre les vestiaires.
Montella dépose ses valises à Séville.
Et oui, Idrissa, l'entraîneur italien Vincenzo Montella, 43 ans, limogé il y a un mois par l'AC Milan et le FC Séville ont trouvé un accord de principe pour l'arrivée du technicien en remplacement de l'Argentin Eduardo Berizzo, écarté la semaine dernière. Avec Séville, contrairement à l'AC Milan, Montella pourra jouer la Ligue des Champions où les Andalous affrontent Manchester United en huitième de finale.
Le FC Barcelone abandonne la piste Di Maria.
L'international argentin Angel Di Maria ne devrait pas être relancé lors du mercato d'hiver. Philippe Coutinho de Liverpool reste la priorité de la formation entraînée par Ernesto Valverde. Selon les informations du journal Mundo Deportivo, les Catalans auraient décidé de lancer une nouvelle offensive sur le Brésilien de 25 ans. On termine en basketball avec vous, Idrissa, quelques résultats de NBA, le championnat nord-américain de basket.
Orlando Magic bat Detroit Pistons 102 à 89. Boston Celtics et Houston Rockets 99 à 98. Minnesota Timberwolves battus par Milwaukee Bucks 102 à 96. Et les New York Knicks succombent aux San Antonio Spurs 119 à 107.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Liberia, la légende du foot et sénateur George Weah l'a donc remporté largement au second tour de la présidentielle de mardi. La commission électorale nationale le crédite de plus de 61,5% des voix exprimées, tandis que son rival et vice-président sortant obtient 38,5% d'après les résultats provisoires. Le taux de participation est de 56%. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Monrovia un ancien journaliste de la radio nationale ILBC, Mohamed Kenneth.
La victoire de M. Weah est basée sur le besoin de tourner la page. La majeure partie des Libériens voudrait avoir un nouveau régime. Les 10 ans de pouvoir du Parti de l'Unité, de Mme la Présidente, ils voulaient tourner la page. La plupart des électeurs ont moins de 20 ans. Si vous voyez 95% d'électeurs libériens aujourd'hui, les 80% ont moins de 20 ans. Ils admirent M. Weah parce qu'il est jeune, pas très jeune, 51 ans, mais ils admirent. Ils voudraient un changement vraiment et oublier le passé.
Est-ce que c'est quelqu'un qui va réellement apporter le changement attendu? Quel est le bilan de M. Weah en tant que sénateur?
C'est un peu difficile parce que 3 ans en tant que sénateur, on n'a pas vu vraiment beaucoup de choses, hein, franchement. Mais les Libériens souhaitent que arriver au palais de la présidence avec tout son entourage, parce qu'il est entouré de plein de cadres d'intellectuels, s'il réussit à les écouter, à suivre leurs conseils, je pense qu'il va faire quelque chose de bon. Mais franchement, la plupart des électeurs sont un peu déçus du fait que 3 ans en tant que sénateur, ils n'ont pas vu grand-chose. Mais ils ont continué de l'admirer, ils ont continué de le soutenir.
Le premier tour a été caractérisé par des disputes. Est-ce qu'on peut penser que cette fois-ci, c'est fini et que le pays va connaître une alternance pacifique?
Bien sûr, non, c'est fini, il n'y aura pas de dispute. Le président de la commission électorale, M. Kokoya, Jérôme Kokoya, a annoncé que d'ici midi, vendredi, le résultat final sera annoncé. Juste après ça, c'est fini. Il y a un de mes cousins qui vient de m'appeler, qui est à quelques 60 mètres d'ici, qui me dit que les partisans du CDC ont commencé à faire la fête. Donc, ils n'ont même pas attendu la proclamation des résultats final. Déjà, c'est la fête. Je pense qu'avec le soutien de la population, M. Weah sera écouté et prendre des décisions très, très positives du pays.
Quelles sont les premières décisions à prendre immédiatement?
D'abord, essayer de redresser l'économie. Vous savez, avec la crise de la fièvre Ebola, ça a complètement détruit, si je peux le dire, l'économie du Libéria. Deuxièmement, essayer de réformer l'éducation nationale et peut-être tout de suite essayer d'enlever le statut des centres de santé, des centres hospitaliers à travers le pays. Mais la première chose sera de réformer l'économie.
Et lui, qu'est-ce qu'il a promis?
Oui, M. Weah, pendant sa campagne, il a promis qu'une fois qu'il devient président, il va s'attaquer d'abord à la corruption. Alors le taux de chômage, surtout chez les jeunes, il va essayer d'améliorer ça parce que 95% des jeunes de moins de 20 ans sont au chômage. Ils sont au chômage, donc il faut trouver du travail.
C'était Mohamed Kenneth, ancien journaliste de la radio nationale ILBC au Libéria.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, le comité des laïcs catholiques a appelé à une marche à travers le pays le 31 décembre, date anniversaire de la signature de l'accord politique. Eddie Isango a joint à Kinshasa Léonie Kandolo, porte-parole du comité laïque de coordination de l'Église catholique.
Elle concerne tous les croyants. Nous, ceux qui sont à l'initiative, nous sommes des laïcs catholiques, nous avons eu l'adhésion des autres confessions religieuses, comme les protestants, les églises de réveil. C'est globalement les croyants. Tous ceux qui croient, tous ceux qui veulent un changement, tous ceux qui veulent l'application des textes sont les bienvenus dans cette marche.
Mais que visez-vous concrètement avec votre marche?
Mais nous disons au peuple congolais de se réveiller. Nous, nous répondons à l'appel des évêques où ils ont dit que le Congo va être levez-vous. Nous nous levons. Quand nous ne sommes pas d'accord, nous nous voulons, dans un premier temps, que toutes les mesures de décryptation soient mises en place. Parce que même si tout le monde a accepté le calendrier électoral, si les mesures de décryptation ne sont pas mises en place, les élections seront contestées. Nous devons respecter les textes et il ne faut pas oublier que l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est le seul document légal qui tient notre République en ce moment. C'est ce qui permet aux institutions de fonctionner, puisque toutes les institutions, que ce soit le Parlement, que ce soit le Sénat, que ce soit toutes les institutions provinciales, toutes ont déjà dépassé leur délai, que ce soit le président de la République, bien sûr, depuis le 19 décembre de l'année passée. Donc, en fin de compte, tout le monde est hors mandat.
Comment comptez-vous faire pour éviter toute récupération politique, car vous avez apparemment reçu l'assentiment de presque toute l'opposition, à part quelques partis?
Bon, disons que tous les politiciens qui viendront marcher ne viennent pas en tant que politiciens, ils viennent en tant que chrétiens ou en tant que croyants. Donc déjà, la raison pour laquelle ils viennent, pour leur visibilité, ils sont là en tant que croyants. Mais aucun politicien ne peut afficher d'un signe ou d'emblème d'un parti politique. C'est-à-dire que tous ceux qui vont marcher, quelle que soit votre orientation politique, votre vision, même les acteurs de la société civile, des mouvements citoyens, personne ne peut porter un vêtement avec une inscription dessus. Et pour ceux qui n'ont pas de panne d'église, on leur demande de porter des chemises ou des t-shirts blancs.
En 1996, il y a eu une marche semblable à celle-ci qui s'est achevée par des dizaines de morts sous Mobutu, bien sûr. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il en soit ainsi aussi ce dimanche?
C'était en 1992. Depuis près de deux décennies en RDC, nous avons 6 millions de morts. Est-ce que vous pensez que nous ne pouvons pas faire un sacrifice pour libérer notre pays?
Léonie Kandolo, porte-parole du comité laïque de coordination de l'Église catholique à Kinshasa.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Au Cameroun, l'armée dit avoir libéré 17 personnes prises en otage par des groupes armés centrafricains dans la région de l'Adamawa. L'opération a fait un mort et quatre blessés et des centaines d'autres Camerounais seraient toujours aux mains de ces groupes, selon les autorités camerounaises. Reportage de Moki Edwin Kinzeka, repris ici par Lionel Gahima.
Les blessés de l'opération menée près de la frontière centrafricaine ont été admis à l'hôpital de la mission norvégienne de Ngaoundéré, a expliqué le docteur Yali Bin Yamazani, un des médecins de l'établissement.
On nous a amené quatre malades, comme celui-ci qui est là. Il y a d'autres qui ont un problème de fracture au niveau du membre supérieur, mais généralement ils sont stables.
Ahmed Ousseni, un commerçant de 24 ans, affirme qu'il faisait partie des otages retenus dans le camp pris d'assaut par les troupes camerounaises.
Au départ, nous étions cinq, puis cinq autres nous ont rejoints, puis huit autres, dont nous étions à 18 otages.
Voilà,
c'est derrière la montagne que les forces de
Ousseni rapporte que les otages avaient droit à un repas par jour lorsqu'il y avait à manger. Ils étaient souvent menacés de mort, mais jamais battus, a indiqué l'ex-otage. Le gouverneur de la région de la Damawa, Kil Dadi Tagueke Bukar, assure pour sa part que le gouvernement a pris toutes les mesures pour protéger la population. Les opérations militaires se poursuivent pour retrouver les autres otages, a-t-il dit.
Je voulais féliciter le commandant de la 31e Brim qui a mené cette action et a libéré plus de 17 otages. Par cet acte-là, les forces démontrent qu'elles sont en alerte, que tous les actes posés peuvent être réprimandés par ces dernières.
Selon des militaires camerounais, plusieurs ravisseurs portant des uniformes de l'armée camerounaise ont été tués et certains se sont enfuis en République centrafricaine. Les groupes armés centrafricains font des incursions en territoire camerounais pour enlever du bétail et des commerçants en vue d'exiger des rançons. Le Cameroun partage une frontière de 900 km avec la RCA et accueille actuellement 350 000 réfugiés fuyant les violences dans ce pays voisin.
dans la région de Diffa au Niger pour accompagner les victimes des atrocités de la secte Boko Haram. Les jeunes adolescents, notamment des structures humanitaires, ont mis en place des centres d'appui psychosocial. Notre correspondant au Niger, Abdulrazak Idrissa, était dans un de ces centres.
Un peu à l'écart du site des réfugiés et déplacés de Kabale-Ware-Kazma, à une soixantaine de kilomètres de Diffa, sur un espace aménagé, un groupe de jeunes garçons joue au football. Un autre s'essaye au basketball alors que les jeunes filles chantent et dansent. Pas trop loin de cet espace, une bâche bleue recouvre des piquets en fer solide. C'est la salle des cours d'alphabétisation. Nous sommes au centre du dispositif d'appui psychosocial pour adolescents, Diapado, mis sur pied par l'ONG Kopi Niger. Moussa Nuhu Rachid est un des assistants projet à Kopi Niger.
Au niveau de ces espaces, il y a l'éducation non formelle. L'éducation non formelle consiste à aider l'enfant à travers des jeux, les accompagne aussi à les pratiquer au quotidien pour les aider à sortir de leur vécu suite aux crises auxquelles ils ont été confrontés. Devant eux, il y a eu des victimes. Donc parmi les enfants, il y en a qui ont gardé ces souvenirs sombres, qui les fait vraiment souvent revivre ces expériences, qui les met dans un état un peu qui n'est pas bien.
Chaque jour, depuis des mois, des animateurs se rendent au niveau de ces centres. L'animateur du jour de notre passage sur ce site est Inoussa Adamou Salifou.
À travers ce genre de jeu, l'enfant se retrouve. L'enfant vient, il joue avec ses amis, ses pères. Il comprend que malgré tout ce qui s'est passé, il peut vivre heureux. Il peut vivre au sein d'une société, au sein d'une communauté, avec des gens qui les accueillent bien, qui les permettent de s'épanouir. Et pratiquement depuis qu'on était venu, parce que c'est un nouveau site qu'on a débuté les activités en juin. Au début, quand on avait commencé, donc les enfants, ils étaient un peu réticents même aux activités, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de le faire. Mais petit à petit, avec le temps, ils commencent à s'adapter. Et vraiment maintenant, comme vous le constatez, sur le terrain, tous les enfants sont heureux. Ils ont même pratiquement oublié ce qu'ils ont vécu.
Alors que les enfants de la tranche d'âge 9-14 ans chantent et jouent sur le terrain multisport, les 15-18 ans, eux, prennent des cours de kanuri, la langue locale, dans la salle d'à côté. Ceux qui ont suivi les cours d'alphabétisation le matin pratiquent les activités récréatives l'après-midi et vice-versa. Tout se passe au grand plaisir de ces enfants. Abdulrazak Idrissa, de retour de Diffa pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur Ondes Courtes, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau. Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, rendez-vous en direct dans Sporama 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple, vous pouvez nous appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. À très vite, sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction Idrissa Siludia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.